Bonjour à tous et bienvenue dans La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux Éditions du Commun. Bonjour Benjamin.
Salut Corentin.
Aujourd'hui, nous allons aborder une pratique centrale de la chaîne du livre, une pratique qu'on pourrait même considérer comme une des, sinon la grande finalité de celle-ci, la lecture. On va donc essayer de définir la place que le monde du livre accorde au lecteur. Et pour commencer, je pense qu'on peut dire que lorsqu'on pense aux acteurs de ce monde, on a un peu tendance à oublier le lectorat, non ?
En tout cas, dans des chaînes du livre où l'entrée principale est l'économique. Alors que sans lectorat, il n'y a pas d'économie non plus. Mais effectivement, c'est le maillon final et il est bon de le rappeler que la chaîne du livre, s'il y en a une, on pourra en reparler du fait de penser tout ce milieu-là comme une chaîne et non pas comme des horizontalités et des concomitances. En tout cas, nous, on aime bien dire que la chaîne, elle démarre d'un auteur ou d'une autrice pour aller jusqu'au lecteur ou à la lectrice.
Et en même temps, en tant qu'éditeur, si on prend la définition, on va dire, classique de la chaîne, on arrive juste après cet auteur qui est au début, et donc on est particulièrement éloigné, temporellement et physiquement, du lecteur. Hein. On n'est pas forcément non plus beaucoup en contact avec eux, ou alors dans des conditions qui sont franchement pas idéales. On a déjà parlé des fameux stands de festival. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je pense qu'en tout cas, on pourrait s'amuser à redéfinir qu'est-ce qu'un lecteur ou une lectrice. Et je pense qu'on est en contact fréquemment avec un certain type de lecteur qui est une communauté. Et donc, je pense qu'on est au contact, mais de gens qui nous suivent, nous apprécient, font communauté autour de nous. Donc, on ne peut pas, en tout cas, il ne faut pas le nier, c'est vraiment quelque chose d'important dans un univers de lecture et de production éditoriale que d'avoir du monde autour de nous qui nous remettent, qui nous suivent, qui portent un intérêt, non pas à un livre ponctuellement de ce qu'on édite, mais bien au travail éditorial que l'on fait. Mais on ne peut pas non plus généraliser l'ensemble du lectorat, de ces personnes qui lisent, par ce type-là de lecteurs.
Et du coup, tu parles de type de lecteur, tu dirais qu'il y en a d'autres, tu les qualifierais comment ?
On ne peut pas dire qu'il y ait de bon ou de mauvais type de lecteur. en tout cas, je les séparerais en deux, c'est-à-dire les lecteurs, lectrices, communauté, voilà, qui ne regardent pas que le titre d'un ouvrage, mais regardent quel est l'éditeur et pourquoi il fait ce boulot-là, et le comprennent, le suivent. Nous, on peut les constater sur nos réseaux sociaux, celles et ceux qui s'inscrivent sur nos newsletters et aussi tous nos abonnés. Voilà, c'est une forme, c'est des lecteurs et c'est une forme de proximité qu'on a très forte, mais à aucun moment fait représentativité d'un autre type de lecteur-lectrice, c'est celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui lisent sans s'intéresser à la maison d'édition et ou qui ne lisent pas aussi. Voilà, pour moi, avant cet épisode, je n'ai pas pensé une typologie, mais moi, je les classerais en tout cas en deux parties. C'est ceux qui nous connaissent et nous suivent, et celles et ceux dont ce n'est pas le cas.
Ça, c'est une perception, on est d'accord, qui est très centrée sur la maison d'édition, parce qu'en fait, on va voir le travail de Claire Aubert un peu plus loin. Claire Aubert qui est autrice aux Éditions du Commun, mais selon elle, la simple notion de non-lecteur, elle n'existe pas. Il y a aussi des lecteurs qui ne lisent pas de livres, mais qui sont lecteurs quand même.
Oui. Non, ce que j'essaye de poser, c'est revenir aux bases de notre travail, qui est de croire en des textes et faire en sorte qu'il y ait la plus forte rencontre entre un texte et un lectorat. Et donc, pour moi, c'est là où le binaire se passe. Mais parce qu'en tant que maison d'édition, notre souhait est bien de faire lire, mais de faire lire des ouvrages spécifiques qui sont plutôt les nôtres, même si au-delà de ça, c'est bien une question sociale, on va y revenir, et on veut que ça soit plus transversal, c'est quand même notre porte d'entrée. C'est-à-dire que contrairement à d'autres structures de la chaîne, comme les bibliothèques par exemple, on fait lire à travers nos livres.
Tu parles de questions sociales, c'est vrai que le rapport au lecteur, c'est une des fondations de notre maison d'édition, notamment parce qu'à nos origines, on était porté par une structure d'éducation populaire.
Oui, et puis pour côtoyer Claire Aubert bien avant son livre et tout ce travail-là, il nous a construit sur le fait qu'on n'est pas tous et tout égaux, que la lecture est une pratique sociale, que livre n'est pas égal roman, que la lecture elle est multiple, elle est plurielle, elle est numérique, elle est pour se déplacer tous les jours, pour faire ses démarches administratives, etc. Donc il y a aussi rappeler ce qu'est la lecture, désacraliser le livre, c'est un peu tout ce départ-là, cette histoire-là d'éducation populaire avec l'enjeu qui est de se réapproprier des savoirs. Donc désacraliser le livre en le déchirant et en faisant des arpentages, par exemple.
On a déjà du coup un peu parlé de Claire Aubert. Ce ne sera pas très étonnant pour nos auditeurs que ce soit la première personne qu'on entendra lors de cet épisode. C'est donc l'autrice de Des gestes de lecteur, édité aux éditions du Commun, et on allait l'interviewer pour cet épisode.
Bonjour. Pour me présenter, je me demande à quand je remonte. Je peux dire que ce qui m'intéresse depuis longtemps et de plein de façons, c'est l'éducation ou la médiation autour du livre et de la lecture. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt la plupart du temps formatrice pour adultes sur des choses générales et entre autres sur les pédagogies de l'écrit, qu'est-ce qui permet aux gens de se réapproprier des moyens d'expression, lire, écrire et faire circuler leurs écrits. Et dans mon passé, j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires, donc je connais relativement bien le milieu du livre pour plein de raisons.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et tes recherches, notamment sur le sujet du lectorat ?
Je disais que j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires et au bout de quelques années, j'ai plein de questions qui commençaient à me gratter sévèrement et que je ne savais pas du tout comment traiter. Des questions qui étaient assez simples et bêtes, comme par exemple le fait que je passais mon temps professionnel à organiser des festivals ou des rencontres et que à titre personnel, je les fréquentais très peu. Donc je me demandais pourquoi j'infligeais aux autres ce que moi je voulais surtout pas pour moi. Ou bien quand on travaillait avec des lycéens ou l'éducation nationale, de me demander ce qu'on leur transmet et puis qu'est-ce qu'ils vivaient eux, au-delà des contenus, de ce qu'il y a dans les livres, qu'est-ce que ça pouvait changer pour eux dans leur vie, dans leur rapport à je sais pas quoi, de vivre des choses comme ça. Et j'ai cherché plein de choses, enfin je cherchais, comme je faisais de la formation aussi, j'essayais de lire, et ce que je trouvais en sociologie de la lecture ne me satisfaisait pas tout à fait. Donc du côté littéraire, on s'intéresse au contenu, à la littérature. Du côté de la sociologie, on est surtout sur des questions qui sont posées par les bibliothèques, par les équipements publics qui se questionnent sur la médiation autour du livre. Et par exemple, les bibliothèques, à l'époque, en tout cas il y a quelques années, parlaient beaucoup de lecteurs et de non-lecteurs. Et ce terme-là m'a beaucoup arrêtée en me disant « mais qu'est-ce qui nous permet de qualifier ?» Enfin, je trouvais ça fort de dire « des gens sont non-lecteurs ». En vrai, non-lecteur dans le monde des bibliothèques, ça veut dire « personne qui n'est pas inscrite ou qui ne passe pas à la bibliothèque ». Et sur cette remarque-là très simple, c'était de me dire « mais pour autant, il y a des tas de gens que je connais, moi la première à différentes époques de ma vie, qui ne mettent pas les pieds dans une bibliothèque et pourtant ils lisent, évidemment, de plein de façons. Alors ou bien avec des livres prêtés, ou bien en achetant en librairie, ou bien d'autres choses que des livres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis pourquoi on appelle non-lecteur simplement Donc de fil en aiguille, à essayer de chercher des appuis en fait en sciences sociales sur c'est qui les lecteurs et puis qu'est-ce qu'on entend par lecture. Et c'est sacrément compliqué parce qu'il y a plutôt 50 définitions différentes. Donc j'ai fini par réinventer l'eau chaude, en partie par m'appuyer sur des travaux plus anciens qui disent d'abord on ne lit pas de la même manière à toutes les époques et dans tous les pays. Donc on est d'abord le lecteur d'un contexte particulier avec sa production éditoriale, son rapport au savoir et ses façons de faire circuler tout ça. Et ensuite, les lecteurs, c'est plein de trajectoires très singulières. Donc c'est intéressant d'avoir des statistiques, évidemment, en sociologie. Enfin, on a des enquêtes ou bien du ministère de la Culture ou bien de manifestations, mais qui visent surtout à demander aux gens combien de livres ils lisent par an. Et à gratter tout ça, à continuer à promener mes questions bêtes toute seule, je me percevais surtout que les réponses étaient très intéressantes pour avoir toutes les représentations très normatives sur qu'est-ce qu'on entend par lecture ou livre ou littérature, mais qu'elles ne racontaient pas grand-chose des pratiques de lecture telles que je pouvais les observer ou sur moi ou sur mon entourage et qui sont faites de plein de choses invisibles ou qu'on ne veut pas qualifier. Alors, quand je dis qu'on ne veut pas qualifier, c'est quand on dit lecture, ça c'est les appuis simples que j'ai fini par construire au fil de mes recherches. C'est-à-dire, en France aujourd'hui, ça c'était une précaution de contexte, quand on dit lecture, on entend d'abord livre, lecture égale livre. Donc tout ce qu'on lit et qui n'est pas du livre sera considéré comme de la moins bonne lecture ou de la lecture qui aura besoin de se nommer pour pouvoir être regardée. Et juste derrière, on a livre égale littérature. Donc quand on demande aux gens s'ils lisent, très simplement, ils vont d'abord répondre ce qu'ils considèrent lire de livres de littérature légitime majoritairement de fiction à leurs propres yeux. Donc c'est très caricatural évidemment, mais on a besoin d'avoir des points d'appui, quitte à être un peu caricaturaux, pour essayer de mettre au jour tous les systèmes de normes qui se promènent dans les têtes et dans la société où on vit. Donc lecture égale livre, livre égale littérature. J'avais besoin, moi, d'avoir une définition très extensive de la lecture, en me disant, certes, ce qui m'intéressait au départ du fait de mes occupations d'avant, c'était des questions autour de la littérature, mais là, de revenir à la lecture, c'est-à-dire, mais en vrai, on lit partout, tout le temps. Enfin, sur l'ensemble des supports électroniques, ce qui se passe, c'est des actes de lecture et d'écriture sur n'importe quel smartphone ou ordinateur. Dans de la vie très quotidienne et administrative, c'est de plus en plus marqué aujourd'hui sur tous les sites des institutions, des administrations, pour se déplacer dans la rue, qu'on soit en voiture ou en transport en commun, pour s'informer quand on est au supermarché, pour tout un tas de choses. C'est cette qualité-là qui est sollicitée. Et donc on a besoin de le travailler, enfin au moins de le regarder. Donc ces remarques-là, ça m'amenait à un point qui était, si on supprime, en fait, il n'y a pas tellement de lecteurs et non-lecteurs, puisque en France aujourd'hui, tout le monde a un rapport à l'écrit, de toute façon. Après, on peut travailler avec les gens à qualifier ce rapport-là, à dire est-ce que c'est plus ou moins simple, plus ou moins honteux, plus ou moins gourmand, plus ou moins facile. Mais partir du principe que les gens lisent de toute façon et leur demander ce qu'ils lisent est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fécond, en déblayant un petit peu les frontières, et permet ensuite d'aller sur les pratiques et la manière dont les gens peuvent les faire évoluer, puisque j'ai aussi une casquette de formatrice et que c'est l'évolution des choses qui m'intéresse.
Toi, quelle place tu dirais que tient le lecteur dans cette chaîne-là, dans ce parcours du livre institutionnel, je veux dire.
Ouais, alors, il y a plein de points de vue différents. Moi, alors je ne sais pas si c'est scientifique ou si c'est un postulat, mais en tout cas pour moi, un texte existe quand il est lu. Donc s'il n'y a pas de lecteur, le texte n'a pas de raison d'être. Enfin, un texte qui n'est pas lu ou qui ne circule pas, c'est un texte qui est mort ou qui est stérile. On peut en discuter de plein de façons, mais en tout cas, moi, c'est l'acte de lecture qui m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont quelqu'un ou un groupe de personnes se construisent du sens à partir de signes écrits qui sont sur un support ou papier ou numérique. Après, il y a tout un tas de façons de faire ça. Le lecteur, on pourrait dire... Alors, si je me réappuie encore sur ce que j'avais cherché dans les travaux en sciences sociales, c'est un grand oublié. Parce que dans les sciences sociales, on n'a pas grand-chose sur les pratiques de lecture en général, en tout cas du point de vue des lecteurs eux-mêmes. On a des choses en psychologie, mais qui sont d'un point de vue très intime, très singulier sur la construction de soi. On a des choses en sciences de l'éducation, qui sont liées à l'apprentissage de la lecture à l'école, mais qui sont des questions de pédagogues ou d'enseignants. Mais à quel endroit les lecteurs sont invités ou qui peut leur proposer de se définir eux-mêmes ou de se pencher eux-mêmes sur leur propre histoire? Ça, j'ai vraiment pas beaucoup trouvé, à moins de remonter à des travaux qui ont plutôt une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc le lecteur, c'est en même temps celui qui crée le texte, c'est en même temps celui qui est un peu oublié de la chaîne du livre. Et pour moi, il y a une question de finalité. Enfin, tu disais le mot finalité. Il y a quelque chose de ça, je pense que c'est une autre partie de mes travaux, consistait à interroger des gens, j'avais dit, dont le métier ou la fonction est d'en faire lire d'autres. Donc tout mélangé, des bibliothécaires, des enseignants, des éditeurs, des libraires, des graphistes, etc. Et il me semble que tous ces gens-là travaillent selon ce qu'ils souhaitent transmettre, qui n'est pas le livre ou la lecture, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais qui est ce qu'eux-mêmes ont trouvé, pensé trouver, développé, cultivé dans leur propre rapport au livre et à la lecture. Donc la lecture, pour moi, ou le livre, c'est un moyen, c'est le moyen de quelque chose, et ce quelque chose est très singulier et très particulier à chaque personne. Donc ça aussi, c'était dans les entretiens, mais une dame qui avait 80 ans, qui avait été pendant une grande partie de sa vie enseignante, directrice d'école, et quand elle racontait ses différentes activités, à la retraite, elle a monté la bibliothèque, elle a fait plein de choses à une échelle intercommunale. En fait, ce qui apparaissait, c'est que Son enjeu, ou ce qui comptait pour elle, ce qui avait guidé toute sa vie à travers plein de rôles différents, c'était permettre aux enfants d'être en contact avec des livres, très simplement. Donc ça se faisait à l'école quand elle était enseignante, avec des pratiques et de textes libres et d'éducation avec l'apprentissage de la lecture déchiffrement. Ça se faisait quand elle était à la bibliothèque, où elle déployait plein d'idées pour que des groupes d'enfants viennent à la bibliothèque. Et c'était en relation avec son parcours à elle, qui était née donc à 80 ans. Elle est née plutôt dans les années 30, si je dis pas de bêtises, et dans un milieu rural, dans une famille nombreuse. Dans les années 30, en milieu rural, la présence de documents écrits n'est pas du tout la même que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc l'accès au savoir, je pense, ou bien à un univers qui n'est pas directement l'univers que les gens ont autour d'eux, se joue énormément par ce rapport plus ou moins possible à l'écrit qui, dans son cas, elle, a été rendu possible par l'école et par la figure de son institutrice. Donc il y avait une relation qui était importante entre ce qu'elle a fait pendant toute sa vie et sa propre histoire qui était, moi, ce qui m'a sorti de ma famille, enfin pas sorti au sens exclu, mais ce qui m'a permis de dévier un peu de la route qui aurait été la mienne, c'est cette institutrice, c'est cette personne qui m'a mis des livres dans la main et qui m'a embarqué à l'école à 4 ans. Et donc dans les différents entretiens, j'essayais, en tout cas je demandais aux gens à la fois quelle était leur trajectoire de lecteur, comment ils se racontaient leur propre histoire et de quelle façon ils exerçaient leur métier, de libraire, de graphiste, d'éditeur, etc., etc., pour pouvoir ensuite regarder s'il y avait des parallèles, des échos ou des contradictions entre ces deux histoires. Et donc c'est ce qui faisait apparaître ce que j'appelais en tout cas dans cette recherche-là les gestes de lecteur, de se dire je veux partager avec les autres ce que j'ai trouvé moi pour moi. Ce qui est un moteur très important, et en même temps, d'un point de vue éducatif ou d'un point de vue de société, c'est compliqué de se restreindre à ça. C'est l'argument de dire, par exemple, à l'école, si tous les enseignants sont des anciens bons élèves, eh ben, ça va être compliqué pour eux de savoir quoi proposer ou comment travailler avec des gens qui galèrent à l'école, enfin, très simplement. Donc si tous les gens, ou une majorité de gens qui travaillent dans la chaîne du livre ou la médiation du livre sont des super lecteurs, entre guillemets, qui ont très peu conscience de leur propre capacité d'orientation ou de la manière dont ils sont construits, ils vont avoir tendance à fabriquer leurs propres normes à partir de leur parcours de manière tacite et à la reproduire. Donc c'est pas forcément horrible, enfin ça peut être intéressant. C'est embêtant, encore une fois, d'un point de vue de société ou politique, parce que ça laisse des points aveugles qui sont énormes et que là j'arrive sur des questions et d'éducation et de société qui sont... On n'a pas le droit, dans un pays démocratique, de se dire « tant pis, on a 10%, 20% de la population qui n'a pas accès à l'écrit et c'est pas grave ». C'est grave et ça concerne tout le monde.
C'est intéressant parce que ce rapport, on va dire, des professionnels du livre, du coup, à la passion, c'est quelque chose qui revient souvent. On parle de métier passion, beaucoup disent qu'ils font ça pour diffuser quelque chose qui leur plaît. Et finalement, dans ce genre de réflexion... La dimension pratique est bassement, on va dire, c'est un métier économique et passe un peu à la trappe. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi ?
Bah, plus que ressenti. Ouais. La dimension. Alors, on a. Moi, je me disais, on a un registre qui est entre l'affect et le métaphorique. Quand on parle de livre et de lecture, c'est. Alors, il y a le côté métier-passion. Il y a des choses très morales aussi, parce qu'on est. Enfin, si on pense à l'éducation, à l'école de la République, enfin, la lecture pour les enfants, c'est décider ce qui est bien pour eux du point de vue d'un État républicain qui veut construire ses citoyens de demain. Donc évidemment qu'il y a aussi... Donc c'était dans les choses qui m'avaient interrogé, par exemple, dans des arguments ou de groupements de libraires ou de secteurs institutionnels sur lire c'est bien ou lire ça rend citoyen. T'es là, mais alors, si on se demande pourquoi, comment et quoi, ou si on se dit et c'est quoi lire en vrai, ça veut rien dire quand on le dit tout seul. Je trouvais aucune explication là-dessus. L'autre idée, et qui est un parallèle direct, c'est la lecture a été beaucoup présentée. Alors, là aussi, je vais caricaturer, ça va être plus simple. La lecture est vraiment une compétence intime et singulière, et le lecteur a été touché par la grâce du ciel, et il est vraiment un lecteur chanceux, et on ne sait pas très bien comment ça s'est fabriqué, c'est un peu magique, mais en tout cas, joie, bonheur, il a accès à des champs d'imaginaire et de littérature formidables. D'accord, c'est caricatural, ça traîne quand même dans les têtes. De revenir aux sciences sociales, c'est-à-dire comment on peut se dire qu'on lit jamais tout seul. On lit jamais tout seul parce que dans nos façons d'apprendre à lire et de continuer à lire, il y a plein de gens autour de nous. Il y a des rencontres, et pas que l'école évidemment. Il y a tout l'environnement familial et social dans lequel on a grandi. Il y a les gens qu'on a pu rencontrer, les gens qui nous ont parlé de livres, qui nous ont conseillé des livres, les gens qui nous ont intéressés à un domaine. Et peut-être que lire quelque chose à un moment sera un moyen de se pencher sur ce domaine-là. Et c'était une, on est nombreux, il y a une foule en soi quand on lit. Donc c'est vrai aussi qu'il y a une dimension intime, je ne vais absolument pas la nier, mais tenir l'autre bout de la corde, c'est dire comment est-ce qu'on peut considérer ce nombre-là, ce collectif-là ou cette foule-là, qui est là quand on lit, qui est là aussi quand on écrit, parce qu'on a tout le temps le parallèle lecture et écriture. Et donc pour la médiation du livre et de la lecture ou sa circulation, c'est la même chose. Peut-être que le premier élément, ça serait arrêter de se penser tout seul dans cette tâche-là. Comment un enseignant ne porte pas sur ses épaules l'éducation à la lecture et à l'écriture pour l'ensemble de l'humanité. Il travaille à un endroit donné, avec des enfants particuliers, et il travaille pas tout seul, puisque et il a une équipe, et il y a sans doute une commune ou une ville autour, et différentes structures, et des bibliothèques, et que c'est une autre partie de mon travail qui est en train de s'axer maintenant. C'est on a besoin de regarder comment des rôles sont complémentaires.
Merci beaucoup à Claire pour son accueil et pour avoir accepté de répondre à nos questions. Du coup, tu disais que son travail, elle avait quand même un impact fort sur notre ligne éditoriale. Tu le définirais comment, cet impact ?
Déjà, j'ai toujours dit que nos deux premiers livres, donc je mets de côté les formats brochures et textes plus courts, mais les deux premiers livres édités d'essais et sciences sociales sont Le travail du commun de Pascal-Nicolas Lestrade et Des gestes de lecteur de Claire Robert. Ces deux-là ont posé les deux bases qui sont d'un côté répondre à qu'est-ce que le commun derrière les éditions du commun, c'est la question éternelle que l'on nous pose, et la deuxième qui est pourquoi nous faisons ça et comment nous le pensons politiquement. Et là, je renvoie toujours vers le texte de Claire.
Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour se rapprocher de nos lecteurs et pour présenter un peu nos écrits autrement ? Pour se rapprocher des lecteurs, du coup, pour reprendre ton expression précédente.
Je ne sais plus dans quel épisode, hein, tu m'excuseras, mais on commence à en avoir fait un paquet, mais à quel endroit je disais ça, mais c'est dès le départ, dans tout le processus d'édition, on se posait à chaque fois la question de quelle barrière autour du livre on va créer, avec une identité, avec un choix de nom, avec un format, avec un prix, etc. Et ça, ce sont des manières de pas tant de se rapprocher d'un lectorat le plus large possible, que de pas trop s'en éloigner, en fait. C'est comment on s'éloigne le moins possible d'un lectorat le plus large possible.
Et tu aurais des exemples de ce qu'on lance concrètement, des projets qu'on met en place pour ça ?
Oui. Déjà, on fait pas des beaux livres, donc on a un rapport qualité-prix qui fait qu'on a un livre le plus acceptablement bas en termes de prix. Il y a aussi le fait qu'on a un service minimum de mise à disponibilité des textes sous licence libre et en téléchargement PDF. Donc l'argent ne doit pas être une raison pour ne pas accéder à nos textes. On a aussi mis en place, avec la charmante voix de Corentin, mais pas que, des lectures en podcast qui permettent d'écouter des extraits de livres et qui donnent une autre porte d'entrée vers nos textes. Et après, ça passe aussi par des événements. On a pratiqué de manière irrégulière parce que toujours une question de disponibilité, mais quand on a un stand de livres, on a plutôt envie de pratiquer des choses comme déchirer des livres pour donner à lire des extraits et que les gens puissent repartir gratuitement avec des chapitres, notamment du travail du commun qui s'y prête assez bien dans la découpe et la construction de l'ouvrage. On a aussi à multiplier les dispositifs d'intervention. Donc on parlait de l'arpentage tout à l'heure, qui est de s'approprier collectivement un ouvrage en commençant déjà par le désacraliser, en le déchirant au nombre de personnes présentes et en se répartissant à chacun un bout, un temps de lecture individuel pour après un temps collectif pour reconstruire chacun avec son fil le propos de l'ouvrage. C'est déjà pas mal, mais je pense que voilà, il y a multiplier les rencontres. C'est pas parce qu'on a écrit un livre que l'auteur-autrice n'est pas aussi en capacité de venir en parler, surtout dans notre domaine. Hein. Je pense que c'est différent lorsqu'on a un écrit de type littérature. C'est pas la même lorsqu'on a à lire l'ouvrage qu'à écouter la personne en parler. Mais quand on est sur des essais, des choses qui viennent questionner différents sujets de société, la personne est tout aussi pertinente à écouter qu'à lire.
Il y a aussi des ouvrages comme le recueil à punchline, qui sont des productions qui font sens dans ce but de proposer une lecture autrement, l'écriture autrement.
Bah, c'est ne pas oublier la rencontre avec les gens, et notamment les lecteurs et lectrices. Je ne sais plus si on l'a déjà dit, mais je considère qu'en ce moment, 95% de mon temps est d'échanger avec des gens par email, et que de réengager du terrain, de la rencontre, c'est important dans nos métiers, dans nos vies. Que le recueil à punchline, c'est tenter un va-et-vient. On espère qu'il n'aura pas de fin, mais en tout cas, le premier processus, c'est d'être avec les habitantes et habitants du quartier dans différents temps et dispositifs de collecte de punchline de 40 ans de rap français, francophone même, et d'arriver avec un collectif éditorial à en éditer un recueil. Quand le recueil sera entre nos mains, que ce soit un prétexte d'avoir le livre entre les mains pour repartir à la rencontre des gens, remettre en place des ateliers, des rencontres en collège, etc. Et pourquoi pas d'aboutir à un deuxième ouvrage, etc. etc. Donc c'est vraiment de se servir du livre comme un intermédiaire.
Pour nos auditeurs, le recueil Punchline, c'est un projet de bouquin qui est porté depuis plusieurs années.
Enfin, qui est dans les cartons et dans les idées depuis deux ans au moins maintenant, qui est en place et vient de démarrer déjà depuis octobre dernier, octobre 2019. Et le livre, normalement, devrait sortir en novembre 2020, si on bosse bien.
C'est un recueil de Punchline de rap. Tu as évoqué différents ateliers, différents événements. C'est quoi les enjeux et les difficultés qui se cachent derrière le fait de réaliser des événements culturels liés au livre?
Le temps et l'argent. C'est la réponse qui pourrait marcher pour tout. Mais c'est ça, en fait. C'est que qui dit organiser un événement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui interviennent. Lorsque c'est les auteurs-autrices, c'est des gens qui sont payés. Lorsque c'est nous qui intervenons, à part si c'est la petite équipe bénévole, mais ce n'est pas souvent le cas, c'est nous aussi qui venons sur notre temps de travail, donc on est aussi rémunérés. Donc déjà, organiser un événement demande du temps, voilà, et de l'argent, pardon. Et après, du temps, c'est-à-dire que de moins en moins, on décide de faire ça seul. Il y a tout intérêt à se servir d'un événement et d'une rencontre comme un prétexte aussi à rencontrer une autre structure institutionnelle, bibliothèque, librairie, mais aussi autre association avec d'autres thématiques. L'idée étant, lorsqu'on est sur des événements, c'est de ne pas s'arrêter au sujet qu'on aurait déjà traité dans les livres. Parce que là, on n'a pas été assez exhaustif pour l'instant. Donc, c'est comment se saisir des questions autour de la lecture, une lecture qui est une pratique sociale, qui est un enjeu politique, comme des questions transversales aux sujets évoqués dans les livres. Donc là, on n'est pas expert de tous les sujets, donc on s'associe forcément avec des gens sur des thématiques.
C'est un sujet qu'on avait déjà un tout petit peu évoqué dans l'épisode sur la gestion, mais en fait, tous ces événements qu'on organise, le but c'est aussi justement peut-être de nous confronter, nous, à un lectorat qu'on croise autrement que par les réseaux sociaux ou pas du tout pour certaines personnes présentes.
Oui.
Pour élaborer un peu sur ce sujet de l'action culturelle, on a eu le plaisir d'accueillir dans nos bureaux Justine Brunet, qui a plusieurs expériences dans ce domaine, dans des structures toutes très différentes.
Alors, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'événementiel et l'action culturelle autour du livre, dans différentes structures, que ce soit participation à des colloques de maisons d'édition ou dans les bibliothèques publiques, sur des développements d'action culturelle sur des réseaux de bibliothèques, etc. Aujourd'hui, je travaille pour trois associations. Colère du présent qui est basée à Arras, qui organise notamment le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale tous les 1er mai à Arras depuis 2002, mais qui mène énormément d'actions auprès des publics toute l'année, que ce soit par le biais d'ateliers, de cafés débats, de résidences d'auteurs, etc. Je travaille aussi pour Du vent dans les mots, qui est une association basée à l'île sud, où j'accompagne deux lectrices chanteuses qui interviennent auprès de plein de publics dans différentes structures, centres sociaux, CHRS, autour de temps de lecture, de temps de discussion, d'ateliers d'écriture, de reliure. Voilà, on développe le livre sous toutes ses formes. et aussi pour l'association Mine de Culture, donc Mine de Culture qui est à Hénin-Beaumont et qui a pour but de valoriser les langues et les cultures liées aux immigrations dans le bassin minier. Et donc là, de la même manière, on travaille avec des auteurs sur l'exploration des langues dans l'espace public, des langues étrangères. On a un festival des langues et des cultures qui s'appelle le Melting Pot. Et pareil, on développe des animations aussi un peu plus ponctuelles, voilà, comme des karaokés polyglottes, etc. Donc voilà, c'est les trois structures dans lesquelles j'interviens en ce moment.
Un aspect qui me marque, c'est sur la notion d'animation, c'est que naturellement, c'est des choses que tu vas devoir faire en contact avec le public. Et j'imagine qu'une part de l'enjeu, c'est d'essayer de toucher le maximum de personnes, notamment des personnes qui iraient pas forcément vers des événements sur le livre à première vue. Comment tu fais, toi, pour, comment ça se passe pour essayer d'attirer un public sur ce type d'action?
Alors c'est une grosse question parce que ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets qui ont un public captif, donc on travaille avec une structure sur quand on travaille avec une classe par exemple. Bon ben voilà, là c'est le travail, il est fait avec l'instituteur, le professeur. Ça veut pas dire que c'est gagné, c'est pas parce qu'on a une classe qui est qui soit prête à accueillir l'intervenant, que c'est gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un peu de sensibilisation en amont, de préparer les enfants. Bah voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a quand même ce travail-là à faire avec les partenaires en amont. Sur de l'événementiel plutôt grand public, ben là il y a vraiment un travail de communication, de fidélisation des publics, de travail partenarial qui fait que l'événement est relayé, qui fait que aussi qu'il y ait des actions qui sont en amont, qui permettent aussi de préparer cet événement, que ce soit pas juste un truc éphémère, mais qui est aussi une inscription dans le temps. Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif de chaque action et en même temps c'est une grosse réflexion du quotidien à chaque fois qu'on se lance dans un truc. Bon, ben voilà, l'objectif c'est de travailler cette rencontre entre l'intervenant, l'auteur, le texte, le livre et les publics. Et que cette réflexion soit toujours au centre de notre travail. C'est voilà. Avec qui on travaille, pour qui et comment on va faire, quelle stratégie on va mettre en place pour faire que cette rencontre elle soit la plus forte possible.
Un des moyens de rendre le livre vivant, et c'est le sujet vers lequel on va aller maintenant, c'est le cas particulier de l'événementiel dans l'action culturelle. Toi, t'es investi dans plusieurs événements, est-ce que tu peux nous en parler ?
Bah alors je peux parler du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale qui a lieu donc tous les 1er mai et autour du 1er mai parce que il y a une grosse journée organisée type salon du livre cette journée-là, mais il se passe beaucoup de choses les jours précédents voire les semaines. Donc qui a lieu à Arras. Alors c'est un salon du livre qui accueille 80 auteurs et autrices de bandes dessinées, de d'essais, de romans, de poésie, de littérature jeunesse, d'albums, etc. Qui accueille une soixantaine d'éditeurs indépendants de toute la France, comme les éditions du commun par exemple, qui accueille des bouquinistes. Ça n'arrive pas partout, les bouquinistes dans les salons du livre, mais c'est important aussi pour nous qu'il y ait du livre pas cher, et l'occasion permet ça parce que ça attire d'autres publics qui clairement on le voit, qui viennent tôt le matin pour aller farfouiller dans les rayonnages de bouquinistes, mais qui ensuite peuvent rester aussi. On a deux scènes de musique, une scène punk et une scène cultures urbaines, donc plutôt rap, un forum associatif, une soixantaine de stands associatifs, d'associations de lutte, et on a des spectacles. On met le texte aussi en avant par le biais de l'oral, donc des lectures musicales, du spectacle vivant pour tous les âges et aussi en fait ce que j'ai failli oublier, mais c'est au centre au centre de la programmation, c'est que on cherche à ce que tous les invités participent un maximum à la rencontre avec le public, ce qui fait que pour ça, ils sont pas juste derrière leur table, mais ils participent à des rencontres, à des débats. Donc on a environ 50 débats sur la journée, ce qui permet de créer des tables rondes où les auteurs et les autrices vont échanger ensemble sur des thématiques voilà qu'on aura travaillées voilà donc on a une radio PFM libre et sans pub qui présente et qui accueille des débats toute la journée, des chapiteaux etc qui permettent l'accueil et puis ça permet aussi en dehors de l'importance de d'assister à un débat et de réfléchir ensemble et voilà ça permet aussi de créer cette rencontre en fait. Sur cette journée, on estime à 20 000 visiteurs, mais tout est gratuit, tout est en accès libre, il n'y a pas d'entrée de sortie puisque c'est vraiment sur la place publique. Donc c'est un peu compliqué d'évaluer le nombre de visiteurs puisque on a vraiment des personnes qui viennent toute la journée, on a des personnes qui vont dire une heure rencontrer tel invité, on a des personnes qui traversent la grande place pour aller acheter leur baguette de pain et qui au passage voient du graphe ou des jeunes en train de crier des poèmes sur des chaises en plein milieu de la place. Et sinon j'aimerais bien parler de quelque chose qui a rien à voir en termes de dimension. C'est l'association Du Vent dans les Mots qui fait une fête du livre à l'île Sud. L'île Sud, c'est un quartier qu'on dit prioritaire, avec un plan d'urbanisation en renouvellement énorme, donc qui bouge beaucoup. Ce quartier bouge beaucoup, et donc c'est un quartier très jeune et avec des familles, des jeunes familles. Donc cette association, elle est implantée sur ce quartier-là, et l'idée, c'est vraiment de proposer un temps avec les familles dans le quartier. Donc on appelle ça la fête du livre, qui a lieu en juin. Et pour le coup, là, on va faire une communication qui est vraiment à l'échelle du quartier. Donc c'est-à-dire qu'on va on va viser les entrées d'immeubles. Où les affiches sont dans toutes les entrées d'immeubles. Bien sûr, on communique avec le réseau des professionnels du livre de la métropole lilloise, mais on va travailler aussi sur la mixité des publics pour faire venir des gens du centre à l'île Sud. Mais prioritairement, on veut travailler avec les familles qu'on rencontre toute l'année dans les différentes structures dans lesquelles on intervient. Et là, donc, il y a des petits stands d'ateliers d'illustration de livres accordéon, de lectures en musique avec des intervenants musiciens, lectrices, musiciens, ateliers d'écriture, ateliers de poésie, du chant sous parapluie. Voilà, ça se décline sous plein de formes. Ça dure une après-midi. Et là, on est dans un rapport qui est tout aussi convivial que le salon du livre, mais qui est de l'événementiel aussi, parce que c'est sur un temps bien déterminé, assez court, assez éphémère. Mais voilà, on est plutôt sur entre 400 personnes sur l'après-midi. Et c'est des gens qui vont vraiment passer l'après-midi avec nous, dans ce jardin au pied des tours, et qui vont prendre tout leur temps pour découvrir le livre sous toutes ses formes. Là, il y a la présence d'auteurs ou d'autrices parfois, mais très peu. On est plutôt vraiment sur la découverte de l'objet, des histoires, l'imagination. Voilà, et c'est aussi un chouette moment, mais du coup, les choix qui sont faits sont pas du tout les mêmes. En termes de communication, de vente, par exemple, s'il n'y en a pas. Voilà, c'est deux choses très différentes. Mais c'est pour montrer aussi les différents choix possibles aussi pour développer tout ça. Ce qui n'empêche pas, par exemple, à la fête du livre à l'île Sud, de travailler autour d'une bibliographie de livres qui va être quand même de qualité, où on va privilégier des livres qui sont pas forcément... C'est pas des livres qui sont pas accessibles, c'est des livres qui sont moins visibles par rapport à leur diffusion, etc. Donc on est hyper attentif au travail d'éditeurs indépendants, etc. Enfin, voilà, ça n'empêche pas qu'on défend des coups de cœur, voilà, mais de manière, en fait, différente, quoi.
Merci beaucoup à Justine pour avoir partagé son expérience avec nous. Un élément de son discours qui m'intéresse particulièrement, c'est la gestion des différentes économies en fonction de l'événement. Elle parlait de la cohabitation de bouquinistes et de libraires, éditeurs en stand à Colère du Présent, de l'absence de vente de livres au festival organisé par Du Vent dans les Mots. Ça renvoie aussi le lecteur à ce statut qu'on n'a pas encore abordé dans cet épisode, mais qu'on a rapidement évacué en début d'épisode, mais qui est central. Qui est celui de consommateur. C'est un peu paradoxal, mais on a à la fois comme posture de considérer le lecteur comme une personne avec qui on souhaite échanger, partager, et en même temps comme un acheteur à qui on doit s'efforcer de vendre des choses si on veut continuer à fonctionner, en employant des méthodes marketing, des choses que autrement on serait plutôt enclin à critiquer.
Je pense qu'on est sur ça, on a évacué la chose en se disant qu'on a des licences libres et que tout ou partie des livres sont en téléchargement gratuit. Donc dès lors qu'on a fait ça, toute démarche commerciale elle vient en vis-à-vis et pas comme le point exclusif de rencontre. Donc ça allège beaucoup de choses. On l'a vu, hein, des auteurs qui ont leurs livres en téléchargement intégral, lorsqu'ils vont à la rencontre du public, ils ont beaucoup plus de facilité à le vendre au final, puisqu'ils peuvent dire qu'il est aussi en téléchargement. Et donc ça a un peu le même effet au niveau de la maison d'édition. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les téléchargements gratuits possibles, et de l'autre côté, on s'efforce de raconter toute la chaîne, comme on le fait avec le podcast avec toi, Corentin, de raconter toute la chaîne et tous les gens qu'on fait vivre en ayant ce modèle économique. Donc dès lors qu'en plus on justifie le prix par toute une démarche et tout un ensemble de gens rémunérés, c'est beaucoup moins embêtant d'être dans une démarche commerciale qui n'est jamais celle qui nous met le plus à l'aise lorsqu'on vient à parler de choses très fortes comme le rapport à la lecture, le rapport à un ouvrage, à une création, etc.
C'est vrai que même si c'est le cas dans tous les business, en fait, tous les business dans beaucoup d'entreprises de petite taille, la posture de Creative Commons, elle fait finalement qu'on va plus aller vers nos lecteurs en leur demandant de contribuer à un fonctionnement économique qui permet de faire carburer ce truc-là mieux. Mais c'est autant une démarche de soutien qu'une démarche commerciale. De soutien à une association, j'entends.
En tout cas, pour les gens qu'on a en direct, parce que il faut pas oublier qu'une grosse partie de nos lectorats sont des gens qui nous découvrent en librairie grâce au fabuleux travail des libraires et de tout le reste des intermédiaires. Et qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas forcément tout ce qu'on fait dans le quartier où on est d'événements, qui ne savent pas que forcément au départ, en achetant le livre, que le livre est aussi en téléchargement gratuit, en licence libre, etc. Donc la question commerciale, elle se pose vraiment qu'avec des gens qu'on aurait en contact direct. Et donc là, on le travaille assez bien, on a la campagne d'abonnement, on a... voilà. Au final, on est très... justement, la distance qu'on évoquait... avec les lecteurs et lectrices, permet de moins avoir l'impression de vendre un tout autre produit, aussi noble qu'il soit, comme des chaussettes, qu'un livre, quoi.
Tu t'évoquais le fait que la plupart, je pense, de nos lecteurs nous connaissent en librairie, nous connaissent pas directement au départ. Un autre lieu où ils peuvent nous découvrir où le lecteur et la lecture sortent un peu de cette dimension économique dans une certaine mesure, c'est un lieu dont on n'a pas énormément parlé pendant ces 6 épisodes précédents, et c'est la bibliothèque. Pourtant, c'est un acteur que, par exemple, Claire a évoqué plusieurs fois dans son interview, qui a un rôle particulièrement fort dans l'accès à la lecture. Du coup, on a décidé de se rattraper, d'aller interviewer un bibliothécaire, Mathieu Masson, qui travaille à la médiathèque de Saint-Malo.
Oui, donc je suis Mathieu Masson, je travaille à la médiathèque de Saint-Malo, je suis chargé de mission accessibilité hors les murs.
Comment est-ce que tu définirais le travail de bibliothécaire en général et ton boulot en particulier ?
Le travail de bibliothécaire... donc j'ai pas fait les études consacrées, donc les mots clés je les ai pas forcément tous, mais il y a quand même une notion importante, c'est celle de de lecture publique. Et donc l'idée, c'est de d'avoir des lieux qui sont accessibles gratuitement. Je crois qu'il n'y a qu'une seule médiathèque en France qui avait voulu faire payer l'entrée. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là. J'ai dû voir ça l'année dernière ou il y a quelques mois. Donc c'est vraiment des lieux qui sont libres d'accès, ce qui est pas toujours su et perçu par les gens, mais vraiment l'accès est libre. A contrario, il y en a d'autres qui ont très bien compris que l'accès était libre et qui donc viennent tous les jours sans être abonnés. Donc la mission de bibliothécaire, alors là on est plus sur le livre, mais maintenant les médiathèques, il y a aussi donc, plein d'autres supports, du jeu vidéo aux partitions en passant par les DVD et les CD et évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir servir de lien entre les structures, les auteurs, les autrices qui produisent les documents et puis les gens qui sont censés les lire à l'arrivée, quoi. Sachant que donc en France, on a quand même, il me semble, la chance d'avoir le prix unique du livre, mais malgré tout, ça reste un investissement que peut-être les gens qui sont pas habitués à lire peuvent être difficiles à faire. Alors que voilà, à côté de ça, un abonnement à une médiathèque qui en plus peut avoir des exonérations suivant telle ou telle situation, vraiment peut permettre de réapprivoiser la lecture ou tout simplement de lire beaucoup tout ce qu'on a envie et qui est accessible sans que ça ait à impacter le porte-monnaie. Après, plus spécifiquement sur mon poste à moi, l'idée, donc dans le jargon, on appelle ça les publics éloignés ou les publics empêchés. Bon, c'est pas des formules très très heureuses, mais pour l'instant, il n'y a pas de formule plus adéquate et moins stigmatisante. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais du coup, les publics en question, ça peut être toutes les personnes en situation de handicap, quels que soient les types de handicap, les personnes en situation d'illettrisme, les détenus, parce qu'à Saint-Malo, il y a une prison, donc ça fait partie aussi de nos missions. Toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, qu'elles soient temporaires ou permanentes, peuvent avoir des difficultés avec le fait soit physiquement de venir à la médiathèque, soit d'avoir accès à la lecture. Donc,
les personnes allophones aussi.
Les personnes allophones, oui, il y a tout un tableau. Voilà, quand on parle d'empêchement, l'empêchement, par exemple, dans l'absolu, hein, parce qu'après, on est soumis aux contraintes effectives, horaires, financières aussi qu'on peut avoir, mais dans la typologie, le grand organigramme de ces publics-là, une femme enceinte qui ne peut plus trop se déplacer sur la fin de sa grossesse fait partie, sur le papier, de ces publics-là. Alors après, nous, on n'a pas de service de portage à domicile pour femmes enceintes, mais ça pourrait très bien être mis en place éventuellement et ça ferait partie des publics. Donc après, les personnes allophones en font partie, tous les types de troubles ou handicaps mentaux, psy, physiques, ça représente beaucoup de monde. Et donc et évidemment aussi quelque chose qui est plus difficilement nommable, mais qui sont les personnes éloignées pour des raisons socio-économiques, des bibliothèques, et qui tout simplement pensent que le lieu n'est pas fait, qu'elles n'y sont pas les bienvenues et qu'il n'y a rien pour elles dedans. Alors que, c'est pas toujours facile, mais vu le nombre, là je parle pour la médiathèque de Saint-Malo, vu le nombre de documents qu'il y a, ça semble quand même difficile d'imaginer de trouver une personne qui trouverait aucun document qui l'intéresse. Après, toute la difficulté, c'est de réussir à mettre le bon document en face de la bonne personne.
Et de mettre cette personne-là à lire alors qu'elle ne se sent pas forcément légitime à le faire.
Oui, bien sûr.
Donc en fait, c'est intéressant parce que dans les deux tâches que tu nous décris, la tienne et celle d'un bibliothécaire plus général, il y a quand même une dimension qui est profondément sociale. Pour toi, c'est un boulot qui est avant tout social.
Oui, bien sûr. Dans les missions, la notion de lecture publique, il y a aussi une chose très importante, c'est la lutte contre l'illettrisme. Clairement, la médiathèque se doit d'être un lieu ressource au niveau local sur ces questions-là de lutte contre l'illettrisme. Après, entre la théorie et la pratique, c'est tous les publics dont j'ai parlé là, ou en tout cas une partie, la difficulté, c'est que c'est un travail sur le temps long. Et que donc on sait faire des animations pour que les gens viennent accompagnés d'une structure. Voilà. Il y a des choses qui se ressemblent et après, il y a des spécificités. Évidemment, chaque individu a ses spécificités propres, mais L'idée, c'est souvent que les gens viennent accompagner au début, et puis petit à petit, qu'ils s'habituent au lieu, et au final, qu'ils arrivent, qu'ils acceptent de venir tout seuls, qu'ils osent. Par exemple, on a un accès Internet. Là, je parle de la médiathèque de Saint-Malo. Les gens peuvent venir et aller sur Internet 2 heures par jour, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être abonné, il suffit entre guillemets d'avoir une pièce d'identité, on crée un compte et voilà, et les gens peuvent venir donc utiliser Internet, voir leur mail, etc. Et il y a la presse, voilà, on a quasiment 300 périodiques comme on dit dans le jargon, donc des magazines, des journaux, des revues, etc. Donc ça aussi c'est une porte d'entrée au-delà de la lecture, voilà, avec un livre forcément. Et le livre peut effrayer aussi, voilà, des livres énormes. Donc là, il y a aussi une réflexion qui est très portée en Bretagne, d'ailleurs, notamment avec des structures comme Livre et Lecture en Bretagne, autour de ce qu'on appelle le facile à lire. Et au-delà, le facile, maintenant on dit facile à lire et à comprendre. Bon, là c'est pareil, c'est une terminologie. Il y a des gens qui vont dire oui, enfin ça reste pas facile, mais bon, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. Et l'idée, donc, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent vraiment légitimes à venir et que oui, ils sont les bienvenus.
T'as évoqué un autre truc, c'est le fait que c'était économiquement intéressant de s'abonner à une médiathèque.
Oui.
Ces tarifs-là, comment ils fonctionnent par rapport à l'économie du livre qui, tu le disais, est quand même réglementée. Il y a le prix unique qui est derrière. Oui. Et d'ailleurs, comment est financée une médiathèque?
Alors, donc là, moi, je parle des... On va dire qu'il y a deux grands types de médiathèques. Enfin, il y a les bibliothèques universitaires et il y a ce qu'on appelait avant les bibliothèques municipales. Ou voilà. Donc, moi, je connais pas l'univers des bibliothèques universitaires. La médiathèque de Saint-Malo étant une bibliothèque municipale, l'argent, le budget est fourni par la ville. Voilà. Les tarifs sont fixés pour l'adhésion par le conseil municipal, de même que le règlement intérieur, combien de livres, enfin de documents en général, les gens peuvent emprunter, etc. Sachant qu'à Saint-Malo, le nombre de livres empruntables est illimité. Donc, je dis souvent aux gens en rigolant, si vous arrivez à emporter 200, vous pouvez en prendre 200. Donc ça, c'est le conseil municipal qui fixe ça. Donc, pareil pour les tarifs. Sur la question du modèle économique, il y a une vraie différence, par exemple, entre les livres et les DVD. C'est-à-dire que les livres qui sont achetés, il y a un petit pourcentage de réduction sur les livres quand on les achète. Donc là, entre guillemets, on paye moins cher que le public, mais à contrario, par exemple, les DVD, on les paye beaucoup plus cher que le public. Parce qu'on paye les droits en même temps de consultation. D'abord de prêt et éventuellement de consultation. Les DVD pièces peuvent nous coûter jusqu'à 60, 70, 80 euros. Donc voilà, bon. Donc ça fait partie de l'équilibre global. Il y a des vraies différences entre les différents secteurs au sein d'une médiathèque. Donc sur les livres, le budget est fixé par le conseil municipal et après il y a un découpage qui est fait entre les différents pôles. Alors chez nous, il y a par exemple le pôle jeunesse, pôle adulte, et après à l'intérieur on redécoupe entre il y a les romans, donc ça tout le monde voit ce que c'est, et les documentaires. Documentaires, ça va être tout ce qui peut être ce qui ne raconte pas une histoire en fait. Donc ça peut être des livres de philo, des livres de cuisine, des livres sur un sujet précis et identifié.
C'est quoi tes contacts avec les différents acteurs de la chaîne du livre ?
Avec les auteurs et autrices, on peut organiser des conférences, des temps forts de temps à autre. Par exemple, à Saint-Malo, on a des cycles de rencontres maintenant autour... pour aller vite, des sciences humaines et sociales, et voilà, ou autour d'auteurs de l'imaginaire. Récemment, on a eu Joanne Elliott, par exemple, enfin, voilà, pour le côté auteur, autrice. On a aussi, c'est vrai, deux gros festivals à Saint-Malo, qui sont Étonnant Voyageur et Quai des Bulles. Donc, à ces occasions-là, on reçoit dans la médiathèque des rencontres avec aussi des artistes, donc ça peut être des personnes qui écrivent ou qui dessinent. Sur les maisons d'édition, j'ai pas personnellement de contact particulier avec des maisons d'édition dans le cadre professionnel. Et après, sur les autres acteurs, bon bah il y a la librairie où là pour le coup, nos livres on les achète auprès de libraires, donc c'est des marchés. Voilà, il y a des publications, des appels, des sortes d'appels d'offres. Et par exemple, les livres jeunesse, ça va être un marché. Les livres adultes, ça va être un autre marché. Enfin, après, j'imagine que chaque structure découpe comme elle l'entend. Mais professionnellement, je dirais que ça va pas au-delà. Le vrai maillon de la chaîne du livre, enfin, c'est vraiment le maillon final qui est le lecteur, la lectrice, avec qui on échange beaucoup.
Encore merci à Mathieu pour avoir répondu à nos questions. Benjamin, qu'est-ce qui fait selon toi que du côté éditorial, on a tendance à facilement oublier la place du bibliothécaire ?
Parce que déjà, on a un diffuseur qui s'occupe pour nous d'aller... En fait, de manière générale, ce n'est pas l'éditeur qui vend les livres. On a des diffuseurs pour aller en librairie, on a les libraires pour aller en bibliothèque, on a que des intermédiaires, on est rarement en contact direct, surtout dans des contacts de structure à structure. On a bien compris, on touche un lectorat dans des événements, des salons, etc. Mais donc déjà, d'une part, on les a pas dans notre champ de vision, et après, c'est toujours une question de temps. C'est-à-dire que déjà, il faut arriver à cerner tout le reste du paysage pour éviter que ça n'en fasse une nébuleuse, que la bibliothèque, c'est un processus particulier, en plus souvent de marché public ou d'accord avec des librairies, et que c'est des... J'aime pas dire ça simplement comme ça, mais que le temps, malheureusement, c'est beaucoup de l'argent dans des modèles économiques précaires, et que d'aller voir une bibliothèque ou deux exemplaires placés, lorsque avec le même temps de travail, on peut aller voir un lectorat ou des libraires pour avoir 10, 15, 20, 30 bouquins de placés, économiquement, il y a une différence. Donc, je parle là, bien sûr, d'un point de vue économique. Après, il y a tout un intérêt à aller à rencontrer les bibliothécaires, parce que, justement, dans ce rapport hors économie à la lecture et à rencontrer un lectorat de plus en plus large, le bibliothécaire se fait intermédiaire entre un ouvrage, un savoir et des personnes. Donc, il y aurait matière à s'assurer que nos livres sont le plus présents possible dans les bibliothèques. Et, par exemple, je pense à Livres et Lectures en Bretagne, qui organise des rencontres entre éditeurs et bibliothécaires, justement, pour se faire justement chanter l'étape intermédiaire et un peu technique et économique, pour que les bibliothécaires, qui sont avant tout des lecteurs et des lectrices, découvrent une maison d'édition, son catalogue, etc.
C'est vrai que, en plus, c'est assez, enfin, même en termes d'événements, nos lieux privilégiés pour organiser des moments de rencontre, ça va être des librairies ou des centres sociaux, ça va pas être des bibliothèques nécessairement. C'est un acteur, peut-être pour cette dimension publique aussi, qui sera moins facilement accessible pour nous.
Je suis encore désolé de revenir à ça, mais je pense que si on organise des événements en librairie plutôt qu'en bibliothèque, c'est aussi pour des questions économiques. C'est-à-dire qu'arriver, ne serait-ce qu'à rentrer dans nos frais, dans le fait d'avoir rémunéré l'auteur ou l'autrice, avoir payé ses déplacements, il faut en face avoir vendu des livres. Que ce soit par le libraire qui après nous les refacture, enfin via nos intermédiaires, que nous en vente directe sur un événement qu'on organiserait dans un autre espace, il y a cet enjeu-là. Et qu'en librairie, c'est difficile de vendre.
Bibliothèque.
En bibliothèque, c'est difficile de vendre des livres dans un espace comme la bibliothèque. Parce que justement, je pense que l'enjeu d'une bibliothèque, c'est bien d'arriver à s'exonérer le plus possible de la question économique, de la question économique dans notre rapport à la lecture. Quoi.
Un truc qu'on voit beaucoup en bibliothèque et qui est intéressant d'ailleurs, c'est le système des demandes. Les gens peuvent écrire dans un cahier, par exemple, les bouquins qu'ils aimeraient bien voir arriver dans cette bibliothèque-là. C'est un truc qui se fait en librairie, sous une autre forme, via les commandes. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On n'est pas dans la tête de nos lecteurs, on ne sait pas ce qui va plaire. On parie à chaque fois qu'on édite un bouquin qu'il aura du succès. Comment est-ce qu'on fait pour se dire qu'on conçoit notre contenu à destination d'un lectorat ? Qu'est-ce qui nous fait nous dire qu'il y aura des gens pour lire ça ?
Ça, c'est un secret, on ne peut pas le dire. C'est ce qui fait notre différence. Non, c'est pas vrai. C'est un pari. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est qu'on est persuadé à un moment que pour traiter cette question-là, c'est cet ouvrage-là qu'il nous faut. Encore une fois, dans le contexte particulier dans lequel on est, on fait pas de la poésie ou de la littérature, où c'est un peu différent, mais on a quand même cet enjeu-là de croire en la rencontre et au fait que ça va toucher les gens. Donc ça, c'est le point de départ, je pense, du métier d'éditeur, hein, et d'éditrice, c'est de rencontrer un texte et de se dire que la rencontre qu'on a faite, on a envie de la proposer à un public plus large parce qu'il y a nécessité où ça va marcher. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, c'est-à-dire d'un sujet traité qui nous semble nécessaire de poser là au milieu des débats, etc. Et aussi la manière dont sont produits les savoirs. Voilà, je pense à la collection Petit Manuel, cette série-là, qui est le croisement entre des sujets qui nous semblent importants de traiter et qu'on est persuadé aujourd'hui qu'ils ne sont pas traités, et en plus la manière dont ils sont traités, c'est-à-dire ces écrits à mi-chemin entre savoir chaud et savoir froid, pratique de terrain racontée et en même temps regard distancié pour poser les bonnes questions à une échelle plus large. Ça, on est persuadé que ça n'a pas été fait. Et donc là, on se dit... Il y a un besoin, on y va.
Et puis on a quand même un truc pour se mettre dans la tête de nos lecteurs et un truc qui fait que c'est effectivement pas ultra pertinent de dire, de ma part, de dire qu'on est éloigné de nos lecteurs, c'est que nous-mêmes on fait partie du lectorat et c'est un peu la particularité du travail de Claire et c'est aussi un peu, je pense, la particularité du monde du livre, c'est qu'à bien des égards, tous les acteurs du monde du livre sont des lecteurs, en fait.
Ce serait un peu difficile, effectivement, de ne pas l'être. Après, je pense qu'on revient à la définition qu'on essayait de poser au départ, en tout cas une typologie assez binaire que je proposais, c'est-à-dire que heureusement qu'on est lecteur et lectrice et que c'est avant tout ces sentiments-là, ces pratiques-là qui nous font choisir les sujets, les livres qu'on veut éditer, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas représentatif d'un lectorat large, dans le sens où j'ai eu un bagage éducatif, culturel, qui m'a donné pleinement accès à ces savoirs-là, même si ça n'a pas été tout le temps de manière égale, etc. Je ne me considère pas en difficulté ou en rapport complexe avec les pratiques de lecture. Et je pense qu'on a intérêt à se décaler de ce qu'on a comme habitude et comme a priori, pour s'imaginer d'autres pratiques de personnes qui viendraient poser les mains sur nos livres.
Clairement. Du coup, comme tu le disais si bien, on revient à notre définition de début. Donc, ça me semble être un excellent moment pour finir. On pourrait encore, bien sûr, parler des heures de la lecture et de ceux qui la pratiquent. Chacun est individuel et défini par son propre parcours là-dedans, on l'a assez répété. Mais on espère qu'on vous aura au moins éclairé sur la place des lecteurs, votre place peut-être, dans la chaîne du livre. Merci Benjamin pour cet entretien.
Merci à toi Corentin. Je le répéterai maintenant à chaque fois, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, que ce soit sur le sujet précis de l'épisode, comme sur des questions techniques, d'appréciation, etc. On commence à en avoir et ça fait plaisir d'avoir du répondant, un peu comme le lectorat pour la maison édition, de savoir qu'il y a des gens en face nous aide à continuer de faire ce qu'on fait et d'y mettre du cœur.
On commence à en avoir et on les applique d'ailleurs, les personnes qui nous ont fait reconnaîtront peut-être leurs conseils dans cet épisode-là. On se retrouve le mois prochain pour l'ultime épisode de la mécanique du livre, en tout cas
saison 1
de cette saison, consacrée à la traduction et à la place du livre à l'étranger. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.